Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec notre consultant star que l'on ne présente plus, hein, Arnaud Di Pasquale. Bonjour à toi, content de te revoir. Ça fait un bail, dis donc, je pense que je t'ai manqué un petit peu, non?
Bah, tu me manques toujours, Seb, toujours. Salut Seb, salut tout le monde.
Ce sont les aléas du calendrier, mais cette semaine, voilà, tu vas être gâté, car à nos côtés, un invité va nous accompagner pour cette émission. C'est Laurent Raymond, entraîneur d'Arthur Fils. Bonjour Laurent, bienvenue dans Deep Impact et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à tous.
Mais le casting ne serait pas complet sans un autre Laurent, Laurent Verne, journaliste de la rédaction d'Eurosport, qui suit l'actualité tennistique comme son ombre. Bonjour à toi.
Salut Seb, salut Arnaud et bonjour Laurent, merci d'être là.
Durant cette émission, nous parlerons donc tennis français, bien sûr, avec la saison d'Arthur Fils, votre protégé Laurent Raymond, qui a vécu une année pleine, hein, pleine de victoires, de nouveautés, d'enseignements sur lesquels nous allons revenir. Pour agrémenter tout cela, je vous donnerai la stat de la semaine, concoctée par notre partenaire G7Math. Et Arnaud, tu nous prêteras ton œil, hein, quelques instants, autre rubrique phare de notre émission. Et pour rappel, Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour être prévenu à chaque nouvelle émission. Si vous êtes plutôt vidéo, des extraits des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Et bien, je crois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti. Et avant de parler tous les quatre, je me tourne d'abord vers Arnaud. Chaque semaine, tu poses ton œil avisé sur un joueur ou une joueuse dans la rubrique L'œil de Deep. Alors, qui as-tu choisi cette fois-ci?
Alors, tu vas être très surpris. J'ai choisi Arthur Fils. Quelle surprise, hein. Ouais, donc, non, mais parler de l'étoile montante du tennis français, il a à peine 19 ans, il a déjà gagné un titre sur le circuit à Lyon. Après une génération dorée, évidemment, il y a beaucoup d'attentes et c'est vraiment un vent de fraîcheur là. Il souffle sur le tennis français depuis quelques mois maintenant. Ce qui est absolument génial au-delà de cette ascension fulgurante, parce qu'on peut présenter les choses quand même sous cet angle. Je dis, il a à peine 19 ans, il est déjà dans les 50 premiers mondiaux. Moi, c'est que techniquement et mentalement, je vois aucune limite chez ce joueur et je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'il y a une ambition qui est placée au bon endroit. Je pense qu'il est protégé par, et là on en parlera après avec Laurent, mais protégé justement concernant la pression qui peut peser aujourd'hui sur ces jeunes qui arrivent et sur le tennis français qu'on n'arrête pas, dont on n'arrête pas de parler négativement quand même, où il n'y arrive pas. Là, on a un jeune de 19 ans qui débarque avec d'ailleurs un autre, hein, parce qu'il y a cette émulation avec Luca Van Nash aussi, qui joue énormément et c'est génial. Mais Arthur, en fait, ouais, c'est un joueur costaud dans tous les secteurs du jeu. Il nous a déjà montré de très belles choses, qui a prouvé qu'il était capable d'évoluer sur probablement toutes les surfaces. Il y a beaucoup de boulot, évidemment, mais j'y vois aucune limite. Et ça, c'est super, super intéressant. Voilà pour la suite. Un œil bref, parce que on attend beaucoup de réponses de l'entraîneur d'Arthur.
L'entraîneur d'Arthur que tu connais depuis un moment, Arnaud.
Voilà, Laurent, ouais, on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Et je suis très content de le retrouver. Je suis très content voilà, qu'il soit parmi nous là sur l'émission, parce que tu parlais d'œil avisé, là, pour le coup. On parle d'expert. Ça fait un petit moment qu'il est sur le circuit et il en a entraîné quelques-uns des très, très bons joueurs.
Oui, alors Laurent Raymond, vous êtes rattaché à la Fédération depuis effectivement plusieurs années. Vous étiez aux côtés de Corentin Moutet, hein, entre 2016 et 2022, jusqu'à ce qu'il soit demandé à Corentin de voler de ses propres ailes. Comment est-ce que vous avez découvert Arthur et pourquoi est-il si particulier, selon vous?
Alors, bon, j'ai découvert Arthur, effectivement, quand j'ai terminé ma collaboration avec Corentin Moutet. Et on a commencé ensemble en décembre, en fait, il y a à peu près 10 mois. Voilà, comment ça s'est passé? Ça s'est fait suite à une réunion avec notre DTN actuel, Nicolas Escudé, qui m'a demandé de m'occuper de ce jeune. Et bien évidemment que j'ai accepté. Et voilà. Et donc ça fait maintenant 10 mois que l'on est ensemble. Et c'est une belle année, c'est une belle aventure.
C'est vrai que Arnaud parlait de vent de fraîcheur tout à l'heure. C'est vrai qu'il est très agréable de le voir jouer car il a toujours le sourire. Il joue avec le public, on le sent appliqué, impliqué même. Est-ce que c'est un peu ça la patte, Laurent Raymond?
Oui, en fait, bon, ce qu'il faut, effectivement, les choses vont très vite, hein. Quand on a commencé le début d'année, on a commencé par un challenger au Portugal, à Oeiras, qu'il a gagné d'ailleurs. En fait, avant, il n'avait jamais gagné un tournoi. Il n'avait même pas gagné un futur. Donc, pour lui, déjà, gagner un challenger sur le premier coup, premier tournoi, c'était quelque chose de pour lui, bon, peut-être qu'il s'attendait pas, mais en tous les cas. Derrière, il a bien enchaîné avec ses premières victoires en 250 sur Montpellier, suivi de Marseille et ainsi de suite. Et voilà, en fait, il est extrêmement frais, il est extrêmement effectivement, il a les yeux qui pétillent tout le temps. Il fait les choses simplement. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est quelqu'un qui est un travailleur, qui a la tête sur les épaules. Et voilà, il faut rester surtout comme ça, il faut garder cette humilité et garder ces valeurs de travail qu'il a pour l'instant, et c'est ce qui en fait aujourd'hui un bon joueur. Alors, ça fait pas tout, hein, de faire tout ça, hein. Il faut avoir des qualités, hein. Comme disait Arnaud, c'est un joueur qui est techniquement assez accompli, qui a des grosses qualités quand même de puissance. Ça, c'est important aujourd'hui dans le haut niveau, d'être puissant. Il est puissant à la fois sur ses coups de fond de court, que ce soit à gauche comme à droite, mais également au service. Et après, effectivement, comme le disait aussi Arnaud, c'est mentalement, il y a quelque chose qui se dégage. Il aime les moments forts, il aime les événements. C'est là où je le vois faire les meilleurs matchs. Et ça, c'est un indicateur qui est quand même très important et très fort pour la suite.
Je me tourne vers Laurent Vergne. La première fois qu'on en a vraiment entendu parler, c'était à Roland-Garros 2021, quand il a battu Bernard Tomic, un ex-top 20 mondial. C'était au premier tour des qualifications de Roland. Il avait 16 ans à l'époque, presque 17. Mais alors, depuis, quelle progression quand même?
Oui, il y a une progression qui est vraiment, je pense que même pour Arthur et Laurent, c'est probablement aller plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé tous les deux. J'ai retrouvé une déclat de Laurent en tout début d'année, je crois que c'était juste après Oeiras justement. Vous disiez que vous n'aviez pas fixé d'objectif en termes de classement pour Arthur cette année. À l'époque, je pense qu'il était autour de la 200e place. Il faut quand même se souvenir d'où il vient en l'espace de quelques.
270.
Ouais, voilà, donc il a vraiment, ça a été une explosion en termes de classement, mais qu'il n'y avait pas d'objectif par rapport à ça qui était fixé, mais plus par palier. Alors c'était d'abord, effectivement, comme il n'avait jamais gagné un tournoi, peut-être gagner un futur, mais comme vous le disiez, à mon avis, il ne va pas y retourner. Gagner un challenger, ça s'est fait. Gagner un premier match sur le circuit, ça a été fait très très vite, puisque non seulement il a gagné un premier match en février, mais il a fait deux demi. Bon, il a gagné un premier titre en 250, une demi en 500. Il a découvert les grands chelems. Ça aussi, c'était un des objectifs. Mais ça m'a fait penser un petit peu, alors toute proportion gardée, à ce qu'avait dit Juan Carlos Ferrero à propos de Carlos Alcaraz à la fin de l'année 2021. Alcaraz, à l'époque, est 30e mondial. Il a gagné un 250. Et Alcaraz avait dit, Ferrero avait dit, l'objectif cette année, en 2022, c'est de gagner un 500, l'étape au-dessus. Il a gagné un 500 dès février, puis un 1000 dès mars, et puis il a gagné un grand chelem, il est devenu numéro 1 mondial. Quand ça va très très vite comme ça, encore plus vite que ce qu'on a escompté, pour être raisonnable, j'imagine, au début d'une saison, est-ce que paradoxalement c'est compliqué à certains moments parce qu'on se dit, bon, il faut revoir, remettre tout de suite la barre plus haut. Comment ça se passe dans ces cas-là?
Bon, déjà les programmes changent. On doit adapter les programmes parce que ben on va taper forcément plus haut parce que avec son classement il rentrait pas dans les 250, après il rentrait après dans les 500, même dans les 1000. Mais oui, l'idée c'était de pas mettre d'objectif de classement parce que j'estime que c'est quelque chose qui est limitatif. On met un objectif de classement, on l'a atteint quelque part, c'est une finalité sur la saison. Ce qui me paraissait important, c'était de cocher les cases sur les paliers à franchir à chaque fois. Donc effectivement, tout ce que tu as cité là, On en est là aujourd'hui. Effectivement, en allant dernièrement à l'US Open, vous n'avez jamais gagné un match sur en tournoi de Grand Chelem. Ça, c'est quelque chose de fait, qui plus est en 5-7. Donc, c'était une première expérience. Il y a eu ces deux matchs en 5-7. Voilà, donc après, effectivement, les prochaines étapes, eh ben, on les connaît. C'est celle que tu as citée là, avec Alcaraz, c'est gagner un 500, bien évidemment. Être dans un carré d'un 1000, être en deuxième semaine de Grand Chelem, voilà un petit peu le case maintenant qui reste à cocher. Alors bien évidemment, il y a aussi maintenant la Coupe Davis parce que bon, il a fait il a eu sa première sélection. Ben maintenant, il va falloir gagner son premier match et avoir sa première victoire aussi là-dedans.
Alors, c'est vrai qu'il a vécu un vrai boom hein, dans sa carrière cette année. Et il n'y a pas que nous, hein, journalistes français, qui nous en sommes rendus compte. Donc, Sébastien Grosjean aussi, hein, capitaine de Coupe Davis, il a appelé Arthur pour porter le maillot français pour la première fois. C'était il y a une dizaine de jours hein, face à la Grande-Bretagne et Manchester. Et puis, la semaine dernière aussi, Björn Borg et Roger Federer ont sélectionné Arthur pour jouer la Laver Cup avec le Team Europe à Vancouver, donc au Canada. Deux expériences en équipe qui montrent aussi qu'Arthur va prendre l'épaisseur. Quelque part, racontez-nous un peu aussi ces expériences qu'il a vécues ces derniers temps.
Bah, la dernière expérience, c'est bien sûr c'est celle-là. Hein. C'est on vient de la Laver Cup là, qui vient de se terminer. Effectivement, c'était on a beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision-là, mais maintenant que c'est fait, je le regrette pas du tout parce que c'était vraiment une belle expérience. D'abord, c'est pas une exhibition. Je m'étais mis un petit peu ça, un petit peu en tête, mais en fait, ça joue vraiment la gagne entre l'Europe et les États-Unis. C'était une manière aussi pour lui de côtoyer les meilleurs parce que bon ben il a seulement lui 16 tournois sur le grand circuit aujourd'hui, donc il y a des joueurs qu'il n'a même pas encore croisés. Donc c'était des Rublev, voilà, des Rudes. Alors oui, il a joué, mais de les côtoyer, de s'entraîner tous les jours avec, d'échanger avec eux, c'était bien évidemment une super expérience pour lui, et également d'être au contact de ses anciens, en l'occurrence Federer qu'il a pu croiser, un peu discuter, et surtout le capitaine Borg avec qui on a beaucoup discuté, pas plus tard que hier soir, alors dans le décalage hein, du Canada, où j'ai passé pas mal de temps avec lui, qui m'expliquait que c'était lui qui avait vraiment insisté pour le sélectionner parce qu'il avait un peu tapé dans l'œil
Lui,
en
c'est Björn
parlant
Borg.
de Björn Borg,
Oui.
ouais. Et voilà, et donc du coup hier soir on avait même organisé, parce qu'on n'avait pas le vol, Arthur ce matin a pris son petit déjeuner en tête-à-tête avec Björn Borg, parce qu'il avait des choses, il s'était proposé à lui transmettre des choses. Bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est deux occasions qui sont incroyables.
Oui.
J'étais tous les deux tout seul, en
Oui,
tête à
oui,
tête.
oui, oui. Oui, il s'est proposé. On était la veille, là, on s'est retrouvé par hasard à quatre, dont lui et un ami à lui. Et puis voilà, à la fin de la discussion, en parlant d'Arthur, il a proposé. Voilà, de l'aider, de lui donner son numéro de téléphone. Voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà.
Est-ce que c'est quelque chose, c'est une marque de reconnaissance quand même hein, pour un tout jeune joueur comme ça, qui vous a surpris, vous et Arthur? Comment il a réagi quand il a appris ça?
En fait, il réagit toujours assez de la même manière aujourd'hui. Il prend les choses comme elles viennent. Il se fait pas, il respecte, bien évidemment, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup, mais il se fait pas non plus impressionner, et il prend les informations. Voilà, Björn, il me disait, là, le premier jour, il parlait pas trop, parce qu'en fait, c'est un set vraiment fermé, là, sur la Laver Cup, entre les joueurs, le capitaine, et l'entraîneur. Et il me disait, le premier jour, là, on l'a pas trop entendu, il parlait pas trop, il écoutait. Et à partir du deuxième jour, et troisième jour, et quatrième jour, il dit il y a une progression à lui dans sa manière de prendre confiance au sein du groupe, la confiance pour s'exprimer, de parler sur les matchs lorsqu'ils allaient jouer, ses partenaires, le coaching que lui-même y apportait, parce que vous avez vu comment fonctionnait ce format où les joueurs sont présents, peuvent venir au bord avec le capitaine du joueur. Et voilà, il me dit c'est Il montre quelque chose qui fait que les choses vont très vite. Et effectivement, ça correspond à ce qui s'est passé un peu cette saison où effectivement les choses vont très vite. Voilà. Alors après, on sait que le plus dur, bien évidemment, reste à faire et là-dessus, il va falloir être extrêmement vigilant et que les choses restent fluides surtout et garder la tête sur les épaules et travailler tout en avec beaucoup de sérénité.
T'avais échangé avec Björn Borg, toi Arnaud, un jour dans ta vie ou pas, de joueur?
Non, j'avais pas échangé avec Björn Borg. Non, tu vois,
T'as pas joué à la Lever Cup non plus.
il n'y a pas eu cette reconnaissance. C'est ça la question indirecte. Et c'est très moche, je trouve.
Mais
Non, il n'y a pas eu
avec.
ça.
C'était qui les personnes qui te conseillaient à l'époque?
Non, mais conseiller, je discutais plutôt avec les Français qui étaient déjà sur le circuit quand j'arrivais, tu vois. Et je pense à Arnaud Butch, beaucoup, quand je suis arrivé, qui lui a été plus sur la fin de sa carrière. On avait même dû se jouer une ou deux fois. Et j'avais, moi, j'ai des souvenirs de discussions, d'échanges avec lui, même Cédric Pioline. J'ai ces souvenirs, ouais, vraiment, où tu sais, t'es le petit jeune qui arrive, c'est vrai que tu as 19 ans. Et quand t'as les gars qui arrivent qui sont en fin de carrière, ouais, il y a ce truc, ils te prennent un peu sous l'oreille. Je trouve ça assez sympa. Il y a des petites discussions, c'est très léger, hein, c'est pas aussi formel qu'un petit déj forcément. Mais tu sens qu'il y a un regard qui se pose avec l'envie peut-être quand même de transmettre et d'accompagner. Et je pense que tous les joueurs un peu en fin de carrière ont cette envie. Je sais pas, mais tu vois, je pense qu'ils sont nombreux tous à vouloir le faire. Et c'est cool. Et parce que quand tu es jeune, en revanche, c'est vraiment un truc super. Et je pense qu'on n'en a pas assez conscience d'ailleurs. Et c'est un vrai lien intéressant de pouvoir échanger, discuter avec des gars qui ont quand même plus de vécu, plus d'expérience, plus de victoires aussi, et parfois des finales de Grand Chelem. Hein, quand je parle de Cédric notamment, c'est intéressant de les regarder, de les observer. Je ne sais pas comment il est d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce qu'il
Ouais,
les observe?
est-ce qu'il sollicite
Ouais.
les vieux Français maintenant, mais qui ont un bagage énorme, quelqu'un comme Gaël, par exemple, avec qui il était également à la Leper Cup, ou des joueurs comme ça, ou des Joe de son gars quand il est arrivé, qui était encore là. Est-ce qu'il sollicite ça ou pas tant que ça?
En fait, les choses se font naturellement, et il est vrai ce que dit Arnaud, c'est quelque chose vraiment qui est important, qu'on parle pas assez souvent. En fait, les anciens, quasiment tous les anciens, transmettent. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est vachement fort, parce que ils ont leur expérience qui est différente, ils ont des histoires différentes, ils ont des choses différentes à porter les uns aux autres. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une qualité que l'on a sur ces, entre guillemets, j'ai envie de dire anciens joueurs ou joueurs retraités, hein, que ça soit Joe quand on était au tournoi de Lyon, que ça soit Gilles Simon quand on a fait des entraînements ici quand il joue encore, hein, voilà, et voilà, et donc Gaël, bien évidemment, à la table, on a pu échanger sur pas mal de choses, hein, à sa manière. Voilà, Richard aussi, beaucoup, parce qu'on a fait pas mal d'entraînements avec Richard. À sa manière, Richard a beaucoup de choses à dire. Moi, c'est direct avec Richard. Il va pas broder pendant une demi-heure. Il va être cash sur les choses. Donc voilà, et puis il écoute et puis je m'aperçois que, ben, finalement, c'est des choses qui l'intègrent bien et qui sont très importantes pour nos jeunes.
Est-ce qu'il a pu taper la balle un petit peu avec Roger Federer? Parce que la Laver Cup, c'est quand même son événement. Il était là, on sait qu'il a de temps en temps sorti une tête, mais est-ce que vous avez pu aussi discuter avec lui?
Alors, non, c'était prévu, mais c'est que partie remise, parce que le programme était extrêmement chargé. Comme vous pouvez imaginer, Federer avait un programme du matin jusqu'au soir qui était non-stop. Voilà, donc ça s'est pas fait, c'était prévu, mais c'est que partie remise.
Parce que bon, on sait que derrière, sinon il se fait fouetter par Mirka. Donc sinon, s'il respecte pas le programme, c'est très compliqué. On parlait d'émulation aussi, et on sait que entre les joueurs français actuels, il y en a une évidente. On parlait de Lucas Van Hache tout à l'heure, qui est du même âge. Gabriel Debrus aussi, dans une certaine manière, même s'il a 2 ans de moins, on sent qu'il y a quand même voilà un groupe qui se forme. Est-ce que c'est aussi important pour lui et pour vous?
Oui, c'est colossalement important parce que c'est ce qu'on appelle ces dynamiques de groupe. Aujourd'hui, il existe entre Arthur et Lucas une vraie dynamique positive. On s'entraîne vraiment. Alors, si pour le coup, si avec quelqu'un, on s'entraîne le plus souvent, on s'entraîne le plus souvent cette année, ils ont joué tous les deux beaucoup de fois. Il n'y a que des choses positives parce que les entraînements sont toujours de qualité. Ce sont deux joueurs aujourd'hui qui se respectent, qui s'apprécient. Et ça, c'est quelque chose de. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les dynamiques se font derrière. Un Gabi Debrouille derrière qui voit ça, qui s'entraîne avec eux, et bien les choses leur paraissent normales. Enfin, normal, pas une normalité, mais il dit, bah, finalement, c'est pas aussi loin que ça, parce que sur les sets d'entraînement, il se passe des choses, et ainsi de suite. Et cette dynamique, elle est très forte.
Est-ce que c'est une bonne chose pour Arthur et pour Lucas, par la même occasion, qu'ils aient progressé tous les deux à peu près en même temps? Alors, il y a des moments où l'un avance plus vite que l'autre et inversement, mais globalement, cette année, ils ont vraiment, depuis un an, on va dire, ils ont vraiment explosé tous les deux en même temps. Est-ce que c'est important pour eux? Parce qu'on sait aussi que, il y a une génération qui est en train de s'en aller, il y a des places à prendre, mais il y a aussi forcément une forme de poids à subir, même si on s'en défend et même si on peut essayer de le nier, mais les faits sont là. On les attend tous les deux et d'autres à côté. Est-ce que c'est bien pour eux d'avancer, pour l'instant en tout cas, à peu près au même rythme?
Oui, c'est très important. D'ailleurs, on s'aperçoit que si on regarde que finalement Arthur était devant en début d'année, Lucas a tout de suite a répondu du tac au tac et est repassé devant en jouant bien au tournoi de Pau où il a enclenché quelque chose de très positif après derrière sur la terre battue. Et après, ben Arthur lui est repassé devant, voilà. Et puis c'est comme ça que c'est comme ça que ça avance et je pense que tous les deux, ils vont nous faire de belles choses encore.
Et donc, je disais, quand tu parlais de vent de fraîcheur à Arnaud tout à l'heure, c'est ça aussi qui va redonner le coup de fouet qu'on attend pour le tennis français.
Ouais, alors c'est ça qui va donner. Mais en fait, moi, la question en même temps, parce que je ne sais pas si Laurent y a déjà répondu, j'ai l'impression que il prend les choses de la bonne manière, comme elles viennent, et sans peut-être sans prise de tête ou quoi que ce soit. Mais la question, c'est est-ce qu'ils ressentent cette pression, justement, là, tu vois, ces joueurs, tu vois, du tennis français qui va mal, tu sais, ces derniers temps, quand même, c'était, je trouve, assez lourd, assez pesant, très présent, parce que ça peut, enfin, beaucoup moins de résultats que d'habitude, quand même, sur les derniers grands chelems, avec bah, des gros titres qui sont pas forcément toujours les plus sympas à lire. Aujourd'hui, ça, lui, il t'en parle, il ressent cette attente, tu vois, du public, où il le vit comme je fais ma carrière, j'ai mes objectifs et je m'y tiens, et on verra bien. Après, j'imagine que toi, c'est tout l'objet, évidemment, et ça, c'est aussi le rôle du coach, de l'entourage. Tu vas d'accompagner un petit peu cette pression qui tourne autour. On en parle beaucoup dans le monde du sport.
Bien sûr, non, mais c'est quelque chose dans notre équipe que l'on a, la structure que l'on a avec Arthur. Il y a un travail qui est fait à ce niveau-là avec une personne qui est important parce qu'il fallait l'anticiper. Voilà, parce qu'on sait que toute la difficulté, on connaît aujourd'hui, il nous a montré Arthur qu'il était capable de gagner contre des grands joueurs, mais on sait que la progression, elle va se faire. Certes en battant des très bons joueurs, mais surtout sur la constance. C'est-à-dire avoir cette capacité à avoir un niveau de jeu élevé et constant sur la saison pour gagner tous ces joueurs qui sont dans les tranches ben déjà entre 50 et 75 et même plus, et puis après derrière tout ce qui se passe entre 30 et 50 et ainsi de suite. Donc effectivement là, il était dans une position souvent d'outsider. Aujourd'hui, ben, forcément, il a attendu un petit peu partout. Donc, il y a une pression qui est différente aujourd'hui, différente à gérer. Et ça, bien évidemment, c'est une priorité dans le travail. En revenant de la Lever Cup, par exemple, je fais un point avec lui là-dessus. Je lui dis, bon, qu'est-ce que tu retiens le plus de la Lever Cup? Quels sont les points positifs? Que tu vois et est-ce que tu peux y voir des points négatifs. Mais il a commencé par le premier point négatif. Il dit oui, le premier point négatif, c'est ben, il faut pas que je m'enflamme. Voilà, c'est pas parce que j'ai fait ça, que j'ai eu ces jours-là, et ainsi de suite, que demain, les résultats vont tomber et que voilà, il faut que garder ces valeurs de travail. Et voilà, donc c'est la première chose qui m'a, voilà, qui m'a souligné, qui était importante à dire.
Et les points positifs retenus, du coup?
Sur la Lever Cup, bah, il y en avait beaucoup. Quelque part, c'était un peu désacraliser un petit peu tous ces joueurs-là qu'ils connaissaient pas, et en ayant échangé avec lui, ayant senti un peu aussi comment mentalement ça se passait sur le terrain, il a vu aussi des certaines vulnérabilités, parce que bon, ils sont tous humains, ils ont tous voilà, ils sont pas invincibles, et quelque part ça l'a rapproché d'eux, mais rapproché au sens voilà, quand je vais les jouer, j'ai pas l'impression que je vais rentrer pour gagner, quoi. Et ça, ce sont des vrais points positifs. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, d'avoir discuté, échangé avec ces joueurs-là, de parler du circuit, voilà, toute la difficulté d'une saison qui est extrêmement longue, et, enfin, extrêmement éprouvante, sollicitante, avec tous ces tournois qui s'enchaînent, ces décalages horaires, et ainsi de suite. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut être très attentif là-dessus, et pas trop s'emballer, parce que il est jeune, et priorité aussi à la santé, voilà, parce que cette année, finalement, si on a eu pas mal de petits soucis physiques, je pense que si on les avait pas eu, la saison aurait été encore bien meilleure, mais voilà, on a eu trois petits soucis physiques qui nous ont stoppé 3 fois. Et voilà, ça c'est une priorité. Et d'ailleurs, si on y veut repasser par la case départ à Paris, c'est pour être sur des soins.
Donc là, il a eu 19 ans au mois de juin, 44e mondial. Il a un titre donc ATP 250 en poche. Voilà, c'est une première saison, on va dire, sur le circuit ATP presque rêvé hein, pour un joueur de son calibre. L'an passé, il était quand même loin de tout ça. À quel moment le point de bascule s'est produit, selon vous? Est-ce que vous parliez du titre Challenger au Portugal en début d'année? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est peut-être aussi le tournoi de Montpellier où il a atteint ses premières demi sur le circuit? Ou un match en particulier?
Moi, personnellement, je l'ai vu au tournoi d'Oréas, sur le Challenger,
Au
sur
Portugal, donc.
les tournois, voilà, sur cette capacité à avoir en indoor, qui est certainement sa meilleure surface, aujourd'hui, même s'il est polyvalent, cette capacité à produire un niveau de jeu élevé et l'avoir reproduit sur plusieurs matchs, et jusqu'au bout, et en faisant peut-être son meilleur match en finale. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ben, je me suis dit, là, il y a un truc. Il va se passer des choses par la suite, et puis ça a été vite confirmé. Alors après, ça a été Quimper, hein, où il était en finale, où il perd sur Grégoire Barrère. Et puis après, ben, il a enchaîné ses deux demi-finales à Montpellier et Marseille. Voilà.
Il y a un match, Arnaud, qui t'a marqué de Arthur cette année?
Je me rappelle l'avoir commenté. T'es à Rome sur Cerundolo, je dis une bêtise. Rome, t'es à Rome. Et en fait, dans son tempérament et dans son caractère, sur la fin du match, c'était monstrueux. C'était un match avec beaucoup d'ambiance où il a mis les tripes. Et c'est là où en fait on revient sur l'état d'esprit et on reboucle sur la dimension mentale. C'était un match très physique aussi et où il a dû vraiment s'employer. Et il y avait beaucoup de rage, beaucoup d'envie, beaucoup de force, je trouve. Il a dégagé un truc. Et là, voilà, il y a des indicateurs quand même. Il ne reste pas indifférent. Quand vous regardez des matchs comme ça, bah, vous vous dites qu'il a la flamme, le mec. Il a la flamme. Et c'est vraiment ça. Et il est allé le chercher, il est allé puiser. C'était compliqué comme match. Voilà, donc tu vois un petit revival comme ça, je m'en suis souvenu et je l'avais commenté, c'était canon.
Et
Ouais, t'as raison.
Cerundolo.
C'était sa première victoire en Masters 1000, je crois d'ailleurs. Mais on sent effectivement qu'il aime ça, que c'est un matcheur, comme on dit. C'est-à-dire qu'il aime bien les grandes scènes. Ça lui fait pas peur de jouer des gros tournois, des gros adversaires. Au contraire, moi j'ai l'impression que c'est là qu'il est le meilleur.
Alors, moi, celui qui me vient à l'esprit, c'est celui de Richard, en fait. C'était à Montpellier en. Voilà, c'était la première fois qu'il battait un top 100. Bon, alors, il était même dans le top 50, Richard, à l'époque. Laurent, t'en as un, toi qui te viens aussi comme ça?
Alors oui, mais au fur et à mesure de la saison, Le match que je retiendrai est bien différent par rapport à des matchs qui peuvent se produire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de retenir, le dernier match que j'ai envie de retenir, c'est celui de sa victoire à l'US, sa première victoire à l'US Open en 5-7. Voilà, parce que c'est, il s'est passé beaucoup de choses sur ce
Contre
match-là. À la fois, première fois qu'il faisait plus de 3-7 officiellement, il y en a eu 5 avec des problèmes physiques de crampes sur le terrain, mais également l'autre, et en terminant finalement en étant quelque part presque frais. Voilà. Et donc ça a permis finalement d'avoir d'aller puiser pardon dans des ressources qu'il ne se croyait pas, qu'il ne se connaissait pas, parce que pour lui avoir des crampes c'était plus possible. Donc ça, il a su les gérer parce que ça se gère, parce que c'est pas ce sont pas des crampes de fatigue parce qu'il n'est pas suffisamment entraîné. C'est on en parle suffisamment. Ce sont des crampes de stress, de nervosité, et il a su les gérer. Et pour lui, c'était vraiment un ensemble de choses avec bien sûr des températures très élevées. Et voilà, je trouve que cette victoire représente beaucoup de choses.
Donc c'était contre Talon Greensport, hein, le néerlandais qui était 24e mondial.
Seulement, Laurent, est-ce que un des axes de progression l'année prochaine, alors aussi il y a la question physique, parce que vous l'avez dit, il a été quand même stoppé deux, trois fois sur des bonnes dynamiques en plus le plus souvent. Est-ce que l'objectif c'est de gagner une certaine forme de constance, y compris dans des matchs qui paraissent moins excitants sur le papier, sur la durée, ça passera aussi par là pour s'installer davantage dans le top 40, 30, peut-être 20 dès l'année prochaine?
Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'axes de travail sur lesquels il peut encore progresser ou il va progresser de toute manière. Et ils sont nombreux, que ça soit au service. Bien évidemment, il est puissant, mais il y a beaucoup de choses à faire et à travailler au niveau du service. On sait la gestion de la variété, la variation de ce qui peut être fait au niveau du service, que ça soit dans la maîtrise des effets, dans la précision. Après derrière on sait qu'au tennis les points on les fait et les fautes on les fait avec le coup droit. De ce côté-là je trouve qu'il y a une marge de progression encore qui est colossale et voilà. Et puis aussi à la volée, enfin, dans tous les domaines je trouve qu'il a une marge de progression. Mais ce qui est intéressant c'est que chaque période de développement de travail quand on peut se poser il en trouve tout de suite il y a un progrès. Il y a un progrès qui est tout de suite visible et qui est répercuté sur les matchs. Et ça c'est les qualités qui sont voilà, c'est ces qualités qui sont essentielles pour ces joueurs pour arriver à avancer plus vite que la moyenne.
Alors, on parlait de Cerundolo avec Arnaud tout à l'heure. Donc, Cerundolo qu'il a aussi battu en finale de Lyon, on s'en souvient, pour gagner donc son premier titre ATP. C'était le plus jeune Français à s'imposer sur le circuit depuis Gaël Monfils en 2005, ce qui est quand même pas rien. Bon, il y a un match aussi sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est celui contre Casper Ruud à Hambourg, un ATP 500. Il bat son premier top 10 en carrière avec la manière quand même 6-0-6-4. Alors, même si ce n'est pas le grand rune des années précédentes, ça reste quand même une victoire référence. Est-ce que pour vous, c'est le cas aussi? Est-ce que c'est un match référence pour vous?
Oui, c'est un match référence. Alors sur terre battue, c'est sa meilleure partie de la saison qu'il a pu faire. Mais voilà, c'est à l'image en fait de ce qu'on disait, de ce qu'il est. C'est il s'est retrouvé sur le central en face de Ruud. Il est arrivé, il n'a pas tremblé. Il a joué son meilleur tennis et il est arrivé pour gagner. Il l'a fait de belle manière, justement en montrant un petit peu toute la palette de ce qu'il est capable de faire à la fois au niveau de l'impact physique, parce que c'est un joueur puissant. Il a montré sur un joueur contre Ruud là sur cette partie-là que ben physiquement et en termes de puissance il était au-dessus de lui. Alors oui, certes c'est pas le Ruud qu'on a pu connaître à un moment donné, sur terre battue c'est son match référence. Voilà, ça c'est sûr.
Je vais vous donner une autre stat pour illustrer son bond en avant dans sa carrière cette année. Statistique de notre partenaire Constance du compte Jeu 7 Maths, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Arthur Fils n'a eu besoin que de 63 jours entre son entrée dans le top 100 et son entrée dans le top 50 du classement ATP. Donc, maintenant, il est 44. Dans l'histoire du classement ATP, aucun joueur français n'a connu une transition plus rapide. Alors, je mets volontairement de côté les Français, les François Geoffrey, les Patrice Dominguez, Patrick Proisy, qui sont entrés directement quand le classement a pris naissance. 73, voilà, c'était il y a 50 ans pile poil. À titre de comparaison, Alcaraz, lui, il a mis quasiment le double, hein, 112 jours environ. Donc, bon, ça, c'est pour être un peu tatillon. Mais comment vous voyez la suite? Vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, des progressions pas à pas, mais comment vous voyez la saison prochaine, 2024?
Bah effectivement, on travaille déjà sur cette programmation, hein, parce qu'il faut anticiper les choses. L'année prochaine est une année particulière parce que c'est une année des Jeux Olympiques. Donc c'est un objectif prioritaire pour Arthur et pour nous. Et donc Jeux Olympiques veut dire Roland-Garros veut dire terre battue. Donc, c'est s'aguerrir sur sa terre battue en début de saison. Et il sera programmé pour Arthur probablement la tournée en Amérique du Sud que Arnaud connaît bien.
D'accord, donc vous allez tabasser la terre battue,
Oui,
c'est
oui.
ça?
Oui, il y aura un gros bloc. Il y aura une priorité, a priori, terre battue par rapport à cet événement et cette cible Roland-Garros et Jeux Olympiques qui en suivront.
Donc dès le mois de février, la tournée sud-américaine, c'est ça?
Voilà,
D'accord.
exactement.
Non, mais attends, mais non, mais c'est cohérent, enfin, tu vois, évidemment, c'est super cohérent, il y a des gros objectifs, on parle de Jeux Olympiques, enfin. Quelque chose qui me tient aussi à cœur et que j'aime bien. Donc, non, non, c'est très bien. Non, mais c'est génial, je trouve. C'est bien.
C'est à cause
Faut
de
être
ça que tu
cohérent.
vas pas sur la Lever Cup en plus, parce que
Ouais,
Roger veut plus te mettre.
exactement. Faut être cohérent, tu vois. Et je trouve que là, c'est cohérent. Après, ça sera peut-être pas tout le temps ça, son programme, évidemment. Mais là, par rapport aux différents objectifs, c'est super. Après, non, attends, moi, on admire tous aujourd'hui sa progression. La manière dont il avance, enfin, on a dit beaucoup de choses, on est très élogieux évidemment à son égard, quoi. Et je trouve que moi, je trouve qu'il donne l'impression de très bien gérer les choses, en fait. Voilà. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Je trouve qu'il y a un certain, pas détachement, mais un certain recul. Et c'est génial, tu vois, quand tu nous dis, la première chose qu'il me dit, c'est attention, il ne faut pas que je m'enflamme. Il y a cette conscience, c'est vachement bien, parce qu'à 19 ans, y a de quoi s'enflammer quand tu te retrouves à la Laver Cup, entouré comme ça. D'icônes et de figures du tennis, c'est génial. Enfin, donc c'est tout de suite, hop, je redescends, je suis 44e mondial et j'ai 19 ans. J'ai tout à prouver, j'ai tout à faire, j'ai le boulot en fait qui m'attend devant moi. Ça, c'est bien, ça, c'est important. Ce que tu dis, je trouve que c'est top.
Un petit mot, Laurent, sur la fin de saison, parce qu'avant 2024, il y a quand même une saison à finir, c'est pas encore fini, 2023. C'est quoi le programme d'Arthur là ces prochaines semaines jusqu'à Bercy, j'imagine?
Alors, c'est déjà le Masters 1000 de Shanghai, voilà, qui va commencer mercredi en 8. Il se suivra le tournoi d'Anvers, puis le tournoi de soit Vienne ou Bâle, et Bercy qui vient derrière par la suite. Voilà, tout en sachant que ensuite il y aura encore une compétition, c'est le Masters, la Next Gen,
Gêne.
qui va se passer fin novembre, qui commence le 28 novembre. Voilà, donc et puis la saison va vite derrière, il y aura la préparation et la saison va vite attaquer après par la tournée en Australie.
Je sais qu'il n'y a pas d'objectif en termes de classement. En tout cas, il n'y en avait pas cette année. Mais là, mine de rien, il y a deux Masters 1000 à jouer, un 500, un 250. Ça fait pas mal de points et il n'est pas si loin d'un cap qui est tout sauf négligeable, qui est le cap des têtes de série potentielles en Grand Chelem. Est-ce que c'est un objectif, ça, de la fin de saison, ou on n'en parle pas du tout?
Moi, j'ai ça en tête. J'ai ça en tête d'être tête de série à
À Melbourne.
Australie. Tout à fait. Tout à fait. C'est important. C'est important d'être tête de série dans un tournoi de Grand Chelem, comme dans tout tournoi d'ailleurs, parce qu'on est un petit peu plus protégé. Là, sur les premiers Grand Chelem qu'il a fait, alors, on va dire, il n'y a pas de mauvais ou bon tirage, mais Il est tombé deux fois sur tête de série à Roland et
Ouais.
sur même, et puis à Wimbledon.
Ouais, c'était
Bon, voilà.
Davidovich Fokina. Ouais, très
Voilà,
bien précis.
exactement. Et on connaît l'importance du tirage au sort. Et donc, tête de série favorise forcément les choses au niveau du tirage.
D'ailleurs, il avait eu aussi une tête de série à l'US Open. Hein. Il l'a battu cette fois-là,
Oui.
mais Griegspoor était aussi tête de série. Hein.
Et au niveau physique, pour finir, vous disiez tout à l'heure qu'il avait eu des petits pépins. C'est ça aussi qui l'a freiné en Grand Chelem. C'était à cette période de l'année, non? Entre Roland-Garros et Wimbledon?
C'était sur la préparation, c'est sur un accident, hein, c'est pas une blessure
Ah, d'accord.
jeu, c'est un accident bête, j'ai envie de dire. Pendant notre préparation, on s'est battu. Donc, il nous avait fait déjà prendre un petit peu finalement, de retard. On avait prévu justement de commencer plus tôt que tout le monde à terre battue et finalement, on a commencé un petit peu plus tard. Ça nous a ralenti, freiné d'un mois à un mois et demi. Et effectivement, ça s'est produit après sur gazon au Queens. C'est pareil, il a marché sur une balle, une histoire, voilà, un accident bête encore. Et c'était vraiment dommage parce qu'en fait, c'était pour jouer Alcaraz. Il venait de se qualifier au Queens et il devait jouer Alcaraz. Et j'aurais bien voulu voir ça parce que Alcaraz, bon, on sait ce qu'il a fait sur gazon, mais chaque match, il est monté en puissance. Et le premier match, il y avait un spot intéressant parce que il n'avait pas de repère, de référent sur gazon, Alcaraz. Et il y avait un premier match très difficile. Qu'il a gagné au terreau du troisième, d'ailleurs, contre un lucky loser qui était Arthur Rinderknecht. Et j'aurais bien voulu voir ce match-là. Voilà. Et donc voilà. Donc voilà. De ce fait, cette blessure nous a ralenti. Et ça n'a pas été la meilleure préparation pour Wimbledon derrière, parce qu'il n'avait pas de classement à ce moment-là pour être dans le tableau. Et il a eu la chance d'avoir une wildcard offerte par l'organisation du tournoi de Wimbledon.
Là aussi, c'était une belle marque de reconnaissance quand même. Il y en a eu pas mal
Oui.
cette année, hein, de la part du
Oui,
milieu.
oui. Avoir une wildcard de Wimbledon, il faut cocher pas mal de cases. Voilà, et donc il a eu la chance de l'avoir récupéré.
Et on espère que ça va continuer l'année prochaine. Arnaud, un petit mot pour finir.
Bah, moi je sais qu'il est entre de très bonnes mains. Et c'est ça, surtout, et c'est très important. Voilà, avec Laurent qu'on connaît, enfin que je connais très bien, mais qui est super expérimenté, qui a quelques années derrière lui, quelques joueurs derrière lui, qui aujourd'hui, je suis sûr, aura voilà, les mots justes pour l'accompagner au plus haut niveau, et je suis convaincu qu'il en est loin encore. Et c'est top.
Merci à vous.
Ben voilà, ce sera notre mot de la fin. Merci d'avoir participé
Merci Laurent.
à
Merci. Merci Simon.
cette semaine. Qu'avons-nous au programme sur Eurosport? Eh bien, la suite de la tournée asiatique, avec donc le retour du tournoi ATP 500 de Pékin,
Un énorme tableau. Énorme tableau.
mise en pause depuis le Covid, hein, avec effectivement du beau monde, Alcaraz, Medvedev, Zverev, Rune, Tsitsipas, Murray, j'en passe. Hein.
Et
Tout
dès le
ça donc.
premier tour, faudrait être là, hein, Sam.
Ah oui, parce que nous avons un Rune Félix Auger-Aliassime, je crois.
Oui, un demi-mineur Murray, un Norrie aussi qui joue une tête de série. Tommy Paul Medvedev, c'est pas mal pour un premier
Oui,
tour de
Paul
tournoi.
Medvedev, ça c'est pas mal ça. Et donc tout ça à partir du jeudi 28 septembre jusqu'au mercredi 4 octobre. Voilà, donc pas de finale ce dimanche pour faire la place belle à ce qui suit. Donc le tournoi de Shanghai, ce Masters 1000 en point d'orgue. Qui s'écoulera du 4 au 15 octobre, où là, Arnaud, tu auras droit à ta finale le dimanche matin.
Tout
Voilà,
à fait.
il faudra te lever
Vite
tôt.
fait. Et oui,
Mais je sais que
monsieur.
tu y seras.
Pas de
Je vois que
problème.
tu y seras.
J'adore les dimanches matins.
Au micro.
Au micro, évidemment, toujours. Merci encore, Laurent Raymond. La semaine prochaine, vous autres, pour une nouvelle émission. D'ici là, eh ben, n'hésitez pas à aller taper la balle. À bientôt.
Salut à tous.
Merci. Merci, au revoir.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.